VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Ravi de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci d'être avec nous. L'armée sud-soudanaise réclame l'envoi d'observateurs internationaux pour surveiller l'application du cessez-le-feu en vigueur, alors qu'elle est accusée par le camp rebelle de continuer à mener de violents combats. Les belligérants s'accusent mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu conclu en août pour mettre fin à la sanglante guerre civile qui ravage le jeune pays depuis 20 mois. À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a étudié vendredi la possibilité d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud en réponse aux violations de l'accord de paix. Également dans l'actualité, ce mardi, l'armée égyptienne a affirmé avoir lancé aujourd'hui une vaste opération militaire dans le Sinaï, bastion des djihadistes ralliés au groupe État islamique, au cours de laquelle elle assure avoir tué 29 terroristes et perdu 2 soldats. L'armée qui essuie régulièrement des attaques meurtrières dans cette péninsule désertique, frontalière avec Israël et la bande de Gaza, annonce quasi quotidiennement la mort et la capture de nombreux djihadistes depuis qu'elle y a lancé une offensive à l'été 2012, mais il est impossible de vérifier ces bilans de sources indépendantes, d'après l'AFP. Au Sénégal, deuxième jour ce mardi du procès Hissène Habré à Dakar. Hier, l'ancien président tchadien n'a pas voulu comparaître à l'audience, mais il a finalement été conduit de force devant le tribunal à Dakar, la correspondance de Sokana Tambaye.
Le procès de Hissène Habré a repris sur fond de violence. L'ancien président tchadien n'a pas voulu se présenter et le président des chambres africaines extraordinaires a fait appel à un huissier pour constater cette absence. Après une suspension d'audience de 45 minutes, la cour a fait appel aux éléments pénitentiaires d'intervention. 10 d'entre eux l'ont amené manu militari et 4 l'ont forcé à s'asseoir sur un siège. Ce sont des avocats de la défense excédée qui s'expriment. Maître François Serre.
On est dans une situation de violence absolue. Le président Kam, aujourd'hui, s'est inscrit dans un processus de mensonge. Le président Kam a menti en prétendant que le président Habré avait été amené de son plein gré au tribunal et qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne venait pas dans la salle.
Maître François Serre et maître Ibrahima Diawara, les deux seuls avocats reconnus par Habré, n'ont pas assisté à l'audience. C'est leur stratégie de défense. Quant à l'accusation, elle condamne également cette méthode tout en dénonçant l'attitude de la partie adverse. Georges-Henri Boutier, l'un des avocats des parties civiles.
Il a le droit de parler de conseil, il a le droit de ses défenses tout seul et la cour a le droit de lui désigner des avocats d'office.
Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Également dans l'actualité africaine, au Nigeria, l'armée gagne du terrain sur le groupe islamiste Boko Haram. D'après le président Muhammadu Buhari, le nouveau leader nigérian a fait état des prouesses de son armée au début de sa visite au Ghana hier. Eddie Sango.
Les insurgés de Boko Haram sont pratiquement confinés à la zone isolée de la forêt de Sambisa, dans l'état nord-est de Borno, a déclaré M. Buhari, qui vient de passer 3 mois au pouvoir. S'adressant à la presse, le chef de l'État nigérian, qui avait affirmé à son investiture que Boko Haram sera sa principale priorité, a indiqué que beaucoup de progrès ont été accomplis. Il en veut pour preuve le retour de beaucoup de déplacés parmi les 2,1 millions de Nigérians qui avaient fui en 6 ans les attaques des islamistes. Le président nigérian est beaucoup critiqué pour sa lenteur à agir. Il n'a toujours pas formé son gouvernement. Le 3 août, M. Buhari avait donné 3 mois aux forces armées, à la tête de laquelle il avait nommé des nouveaux chefs pour en finir avec Boko Haram. Ces délais passés et le groupe des djihadistes poursuit ses attaques dans les pays et dans la région. Une force d'intervention multinationale des 8 700 hommes devant être constituée par les Niger, les Nigériens, les Tchad, les Cameroun et les Bénin est toujours attendu.
Enfin, un nouveau gouvernement Guinée-Bissau. Après une longue attente, les Bissau-Guinéens ont pris connaissance hier de leur nouvelle équipe dirigeante sous la houlette du Premier ministre Bassirou Djéa. Des précisions avec notre correspondant à Bissau, Nouha Mankali.
C'est un gouvernement qui est composé de 30 membres, dont 15 portefeuilles ministériels et 15 secrétariats d'État. La particularité de ce nouveau gouvernement est qu'il n'existe pas de ministère de l'économie et des finances, mais le nombre de femmes est maintenu. Il y en avait 5 dans le gouvernement antérieur. Parmi les anciens ministres, seuls 3 ont été reconduits. Après l'investiture des membres du gouvernement, le président de la République, José Mario Vaz, a encore insisté sur la lutte contre la corruption, la transparence sur la gestion des biens publics et le travail. On rappelle cependant que la Cour suprême se prononcera sur la validité ou non du décret présidentiel qui avait nommé le Premier ministre Bassirou Dia le 12 août dernier, dont la nomination a été très contestée par certains membres du PAIGC et de la classe politique bissau-guinéenne dans l'opposition. Nouamankeli Bissau, VOA Afrique.
Plus d'un millier de plaintes ont été déposées, 46 personnes arrêtées au Maroc dans le cadre des élections locales qui se sont déroulées vendredi, a indiqué ce mardi le ministère de l'Intérieur. Ces élections communales et régionales ont donné lieu au dépôt de 1244 plaintes devant la justice, d'après le texte. Si la nature des incidents à l'origine de ces plaintes n'est pas précisée, le ministère relève que 124 ont donné lieu à des poursuites sur les 258 personnes visées, 46 sont en état d'arrestation et 25 plaintes sont toujours en cours d'instruction. Les élections locales ont été remportées au niveau régional par le parti islamiste Justice et Développement, PJD, principale composante de la coalition gouvernementale, et au niveau communal par le parti Authenticité et Modernité, c'est le PAM libéral et qui fait partie de l'opposition. La proposition à venir de la Commission européenne de répartir 120 000 migrants en Europe n'est qu'un premier pas. C'est ce qu'a dit aujourd'hui à Berlin la chancelière Angela Merkel en appelant ses partenaires de l'UE à aller plus loin. Nous saluons la proposition de Jean-Claude Juncker comme un premier pas important, a-t-elle dit lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre suédois Stefan Löfven à Berlin. Mais il reste un pas à faire. Nous avons besoin au final d'un système ouvert de quotas, a-t-elle ajouté d'après l'AFP. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, doit présenter demain mercredi devant le Parlement européen les détails de sa proposition dont les grandes lignes sont déjà connues. Il va proposer aux États membres de l'UE d'accueillir via un système de quotas 120 000 migrants se trouvant actuellement en Italie, en Grèce et en Hongrie pour tenter de répondre à l'afflux de réfugiés qui fuient notamment la Syrie ravagée par la guerre. Mais le principe même de quota suscite de fortes réticences en Grande-Bretagne, en Europe et en Europe de l'Est notamment. Au moins 10 personnes, dont 7 civils, ont été tuées aujourd'hui dans de nouvelles frappes aériennes de la coalition arabe sous commandement saoudien dans la capitale yéménite Sana'a, contrôlée par les rebelles chiites houthis, d'après des sources médicales que rapporte l'AFP. De puissantes déflagrations ont secoué le centre-ville dans la matinée. Des sources médicales ont indiqué à l'AFP qu'au moins 7 civils et 3 gardes du corps d'un officier rebelle, Khaled Andouli, avait trouvé la mort dans les frappes. Le site web sabanews.net, contrôlé par les rebelles pour sa part, fait état de 15 tués et 77 blessés. Parmi les cibles des avions de la coalition ont figuré l'académie de police et le quartier général de la sécurité centrale, ont indiqué des témoins. Le président français François Hollande a ouvert aujourd'hui à Paris une conférence internationale sur les victimes des violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient. Réunion qui se penche en particulier sur le sort des minorités face au groupe État islamique. D'après l'AFP, citant des sources diplomatiques, un plan d'action sera dévoilé à la Réunion. Ses objectifs, entre autres, préparer, faciliter le retour volontaire et durable des déplacés, promouvoir des solutions respectueuses des droits de l'homme et mettre fin à l'impunité de ceux qui ont commis des crimes contre les populations pour des raisons de conviction religieuse ou d'appartenance ethnique. Et puis, une semaine après son instauration, la nouvelle trêve complète négociée entre l'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes semble tenir dans l'est séparatiste de l'Ukraine, mais les experts restent sceptiques sur ses chances de durer. Le cessez-le-feu a été décrété le 1er septembre officiellement pour ne pas assombrir la rentrée scolaire dans la zone de guerre. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous retrouve dans 50 minutes exactement pour un autre point actu. À tout à l'heure. Très bonne écoute sur VOA Afrique.